Shoot.
Sud Radio, il est 23h. Sud Radio. Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Lucie Vincent est avec nous. Vous êtes neurobiologiste, vous êtes autrice, de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, on parle de l'amour parce que c'était votre premier livre, hein, Comment tombe-t-on amoureux ?
En fait, c'était pas mon tout premier livre. Le premier livre que j'ai jamais écrit pour Odile Jacob s'appelait La forme et la frime. Et c'était sur le fait que je trouvais que l'engouement pour les régimes et l'exercice
à outrance
était ridicule. Donc, mais quelques années plus tard, j'étais pas destinée à réécrire, hein, forcément, mais c'était en trouvant cet article scientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était vraiment très, très important, fondamental, et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on le sache, ça, c'est trop intéressant. Et c'est pour ça que j'ai écrit le premier livre sur l'amour. Et ça a eu un certain succès, il faut dire. Ça intéresse.
En quelle année il était sorti?
2006,
je me souviens, puisque c'est certainement à cette époque-là qu'on s'est rencontrés.
Et mais exactement, voilà, notre histoire d'amour à nous, Brigitte.
Et oui, et qui se construit en profondeur, exactement. Alors, la définition du grand amour.
Oh là, j'ai même pas eu le temps d'y penser.
Bah, en fait, c'est une expression qui date du 15e siècle, le grand amour, parce qu'à l'époque, l'espérance de vie était de 35 ans. Donc, c'était le grand amour, puisque de toute façon, on mourait avant de se quitter, si je puis dire.
Ah, mais oui. Et puis, on n'avait pas beaucoup les moyens de se quitter aussi.
Non, c'était pas évident, en effet. Frédéric nous rejoint. Bonjour, Frédéric.
Bonjour, Brigitte. Bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Alors vous n'êtes pas en couple depuis 26 ans, mais depuis 4 ans. Donc c'est un petit peu une autre histoire. Et justement, voyons ce qui se passe.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, on ne vit pas ensemble. Hein. Donc voilà, il y a eu pas mal d'accord. de cassures. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui c'était tout feu, tout flamme au début quand on était ensemble. Hein. C'est vrai que j'ai vécu de belles choses avec lui. Après, il y a eu sa trahison, donc à 2 reprises, trahison. Et puis maintenant, il est revenu, mais il a une attitude comme si c'était moi la coupable par rapport au fait que qu'il m'ait trahi, quoi. Par rapport à son infidélité. Et c'est vrai que moi, je ne le retrouve plus comme avant. Voilà, c'est...
Alors, ce qu'on entend surtout, Frédéric, c'est que vous en parlez mal, c'est-à-dire qu'on sent que vous n'êtes en tout cas plus très, d'abord plus en confiance avec lui.
Exactement.
Et donc la question qu'on a envie de vous poser, qu'est-ce qui fait que vous restez ?
Écoutez, moi je m'éloigne progressivement, de toute façon j'ai pas le choix. Là il va partir sur son lieu de vacances, il m'a même pas proposé de venir avec lui. Quand je lui en parle, non, il faut que tu t'occupes de ta fille. Ma fille est en couple, il faut que tu t'occupes de ta fille, il faut que tu t'occupes de ça,
Il semble-t-il en train de mettre en place une stratégie pour que vous partiez.
Exactement.
C'est ça ?
Exactement. Tout à fait. Je ressens comme ça aussi. Voilà. Rien n'est fait pour que...
Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous restez quand même ?
C'est pas que je reste, hein, puisque je lui ai dit que j'avais compris sa façon de procéder. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure, on en a discuté. Et puis, il m'a dit, de toute façon, tu fais comme tu veux. Parce que comme je lui ai dit, j'en conclus que tu es orienté vers d'autres horizons, quoi. Donc moi, j'ai plus de place à avoir dans ta vie. Il m'a pas carrément dit que c'était terminé, parce que c'est quelqu'un qui s'en va, qui revient tout le temps, il fait que ça. Donc voilà, moi, ma porte va être fermée définitivement parce que c'est plus possible et puis j'en ai souffert.
Ce que j'entends, et puis je pense que Lucie Vincent va pouvoir vous dire des choses. Moi, ce que j'entends, c'est que quelque part, il est très lâche, hein, et on voit bien qu'il a qu'une envie, c'est que la relation s'arrête. Et vous, vous êtes un peu en train de mendier quelque chose depuis quelque temps. Et finalement, vous ne vous respectez pas parce que c'est une relation qui vous fait perdre de l'esprit. Estime de vous et ça c'est toujours très très nocif. Alors je peux comprendre aussi, c'est difficile de partir quand on espère encore des petites choses qui de temps en temps peuvent arriver, mais on se fait plus de mal que de bien, il me semble. Lucie?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est difficile, c'est une histoire apparemment. Vous parlez de votre fille qui est en couple, donc ça sous-entend que vous avez un certain âge, vous n'êtes pas toute jeune. Et votre histoire avec cet homme dure depuis 4 ans. Donc c'est une histoire que vous avez commencé dans une deuxième vie, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Tout
oui.
À fait.
Donc on n'est plus dans les mêmes aptitudes à tomber amoureux un peu plus tard dans la vie. Donc déjà ça c'est difficile de garder de l'enthousiasme, on va dire, pour son partenaire. Oui, de toute évidence, il met pas beaucoup du sien, mais je comprends que vous avez peur de vous trouver seule, donc vous espériez retrouver quelque chose avec lui, c'est ça?
C'est-à-dire qu'on s'est revu ce week-end, il a été très attentionné, et puis une fois qu'on est passé à l'acte, après, il n'y a plus rien, quoi, voilà. Je lui ai dit, mais... Pourquoi tu mets tant de distance? Ah ben non, c'est toi qui réagis bizarrement. Je dis ben non. Puis bon, après, bon, ben, il me fait dire que je suis bipolaire parce que bon, c'est quelqu'un qui me tient à distance après, quoi. Donc voilà.
Oui, mais voyez, vous parlez beaucoup de lui, mais c'est...
Oui, je m'oublie dans tout ça.
Oui, vous oubliez parce que... Mais moi, je pense que vous avez besoin d'être un peu plus en confiance avec vous-même et c'est le travail que vous devez faire parce que visiblement cet homme il ne vous a pas apporté quelque chose qui vous aurait permis de vous sentir mieux avec vous-même et ça vient certainement bien avant lui, hein, je crois.
Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai qu'il m'a trahi au moment où j'ai eu mon premier cancer et puis qu'il m'a trompée. Il revient après parce que je lui manquais.
Vous savez ce que j'ai envie de vous dire, Frédéric, c'est que c'est pas toujours le cas. Hein, je fais surtout pas une généralité, mais parfois le cancer, on l'a parce qu'on n'a pas su manifester sa colère. Et moi, j'entends dans votre témoignage qu'il y a une colère souterraine. Et je pense que chez vous, il y a quelque chose qui doit exploser, qui doit éclater. Soyez peut-être apte à être un petit peu en colère contre je ne sais quoi, hein, contre des choses que Et d'ailleurs, le sentiment de trahison, souvent, est une sorte de réponse à une colère qu'on n'ose pas manifester.
Peut-être, je ne sais pas.
Donc, contre quoi vous pourriez être en colère? Essayez de vous poser la question. Je vous demande pas de me répondre là, tout de suite.
Oui,
hein, c'est peut-être compliqué pour vous. Mais essayez de voir qu'est-ce qui vous met en colère. Qu'est-ce qui vous met en colère et qu'est-ce qui, en règle générale, et là je ne parle pas de lui, vous donne un sentiment qu'il y a trahison?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de respect après. Moi,
non, mais je ne parle pas de lui. Oui, il n'y a pas eu respect. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, déjà ça, on l'entend dans votre témoignage, vous avez du mal à vous respecter, mais peut-être que quand même, dans votre première histoire d'amour ou dans votre enfance, vous n'avez jamais tellement eu le sentiment d'être respecté. Et c'est peut-être là.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu des choses comme ça. Oui, il y a eu un souci au niveau de l'enfance.
Bon, moi, je vous invite vraiment. Je ne sais pas si vous avez peut-être besoin de vous faire aider, mais je vous invite vraiment à travailler sur le respect de vous-même. C'est la chose essentielle. Et à partir du moment où vous vous respecterez mieux, je pense que vous aurez plus de facilité à être dans une histoire d'amour qui fonctionne.
Oui, mais là, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. J'ai dit, mais attends, il juge ma famille, il juge tout ce qu'il y a autour de moi. Et lui, tout est parfait, quoi.
Vous voyez, vous reparlez de lui.
Oui, tout à fait. Parce que j'en souffre. Là, c'est pareil, je vais pas dire à nouveau quelque chose, un autre problème de santé.
Il ne peut que vous faire souffrir.
Exactement. Moi, donc, je crois que c'est toxique et c'est vrai qu'il va
exactement.
Falloir vraiment que je trouve
cette page. Vous avez dit le mot. Il est toxique. Il est toxique pour vous. Et même s'il vous a apporté du bien à certains moments, c'est une relation qui vous fait du mal.
Tout à fait. Ok. Bon, ben, très bien.
Bon courage, Frédéric. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, Lucie Vincent.
Sud Radio à Dijon, en DAB+.
Sud Radio.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Lucie Vincent est avec nous. Nous parlons évidemment d'amour, de passion, d'amour durable. Emmanuel nous rejoint. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à toutes les deux, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui.
Nous aussi, bonjour.
Alors je viens de faire un petit calcul avec ce que j'ai sur la fiche de votre appel. Donc vous êtes mariée depuis 42 ans.
Oui.
Et vous vous êtes connue quand vous aviez 17 ans. Donc si j'ai bien compris, vous avez 59 ans.
En fait, un petit peu plus que ça, j'ai 62 ans.
Oui, bah ça va, on va pas. Ça va.
Mais je suis restée jeune et belle.
Je n'en doute point, puisque l'amour rend belle, hein, Emmanuel.
Exactement.
Ça, c'est vrai.
Je suis d'accord avec
et on le sent dans votre voix, hein, que c'est pas du pipeau.
C'est gentil.
Alors, racontez-nous.
Écoutez, voilà, comme vous disiez, moi j'ai connu mon conjoint, j'avais donc 17 ans. Donc, premier amour, première expérience dans tous les sens du terme. Et j'en ai 62, bientôt 63. Et toujours autant d'amour d'un côté que de l'autre. Alors, je dirais pour moi que l'amour est différent entre mes 17 ans et mes 62 ans. Parce qu'en fait, 17 ans, c'est la fougue, la découverte, les premiers émois, les tests, ce que on ne sait pas encore ce que l'on veut vraiment, etc. Et puis, à 63 ans, on a l'expérience et on sait vraiment précisément ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Et donc, du coup, on voit les choses complètement différemment. À savoir que, voilà, quand on est jeune, on teste. Mais quand on est âgé, on a des valeurs qui changent parce qu'on a un vécu qui fait que notre physique aussi va changer, que notre mode de vie aussi a évolué, et également qu'on a des valeurs aussi qui vont peut-être être un peu plus exacerbées que lorsqu'on aborde l'amour la première fois, en fait, tout simplement.
Est-ce qu'il y a eu des moments au cours de votre vie à deux où il y a eu des problèmes, où vous vous êtes demandé si c'était la fin, et si oui, comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ces problèmes ?
Alors, il y a eu effectivement, lié à une tromperie de la part de mon conjoint. Donc ça a été évidemment un moment très difficile où il y a eu l'éloignement physique qui s'est fait à cet instant-là, uniquement dans la chambre, mais pas dans la vie du quotidien. C'est-à-dire qu'on est resté à vivre ensemble. Et puis on a engagé une thérapie. J'ai engagé plusieurs modes de thérapie, en tout cas en ce qui me concernait, pour avancer. Et puis analyser aussi ce que je ressentais à cet instant-là, c'est-à-dire après le coup de la colère, après l'annonce, la déflagration, voilà, qu'on subit dans ce genre de situation, quand on n'y est pas préparé, entre guillemets, puisque en fait, je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver. Et puis après, on cherche à comprendre et on analyse ce qu'on a eu avant et comment on va repartir après. Et est-ce qu'on aime toujours le conjoint ou pas ? Moi, ça a été mon cas, c'était son cas aussi. Donc après, ça a été la reconstruction d'un monde nouveau, en fait.
Absolument,
donc, se réapprovisionner. Oui. Se réapprovisionner, voilà. Et en même temps, arriver à pouvoir faire confiance à nouveau. Voilà, donc ça a été vraiment ça, le travail principal. Et finalement, au travers de ça, en tout cas pour tous les deux, ça a été le fait de se dire, finalement, on n'a pas envie de se séparer. On a quand même envie de rester ensemble, de continuer notre route ensemble. Et en fait, il y a des choses qui ont changé dans notre mode de vie du quotidien.
Mais vous dites des choses essentielles, donc ça montre que le travail a été bien fait, hein. On surmonte une infidélité, mais on repart sur des bases différentes. Et vous le dites très très bien.
Hein. Ben merci, en fait c'est ça. Parce que si on veut reconstruire sur de l'ancien, on a tout faux, à mon avis.
Oui,
on
parce qu'on on garde en sous-texte, si je puis dire, l'infidélité. Alors que là, on repart sur... On fait un nouveau départ et on tourne la page, hein, en quelque sorte.
On se trouve comme deux nouveaux individus, un petit peu, avec un vécu différent. Donc,
et en même temps, ça permet de repositionner aussi parfois des petites choses qu'on n'aurait pas faites auparavant parce qu'il y avait la routine du quotidien et puis voilà. Mais là, comme on dit, on met tout à plat et on décide de repartir du bon pied, eh ben on en profite pour faire un petit nettoyage aussi par la même occasion de ce qui nous dérangeait chez l'un ou l'autre et puis on essaye de l'améliorer, voire même de l'éliminer quand c'est possible pour pouvoir vivre autre chose et autrement.
Et parmi vous, vous dites que vous avez entamé plusieurs thérapies pour vous-même. Est-ce que vous avez fait une thérapie avec votre mari aussi?
Alors, elle a été de courte durée, en tout cas pour ce qui concerne la thérapie de couple, parce que pour lui, c'était très difficile. Ce que je peux comprendre, parce que bah, comme toutes les thérapies, ça fait remonter des choses qui parfois sont très très douloureuses. Donc voilà, je n'ai pas insisté plus que ça. Je pense que de toute façon, il y reviendra naturellement pour lui, peut-être personnellement. Mais je pense que de toute façon, il faut avant tout être un peu égoïste dans ces cas-là. Pour se reconstruire soi-même, il faut travailler sur soi et pas tout le temps être penché vers l'autre constamment et s'oublier dans cette histoire-là. Il faut vraiment se reconstruire. Donc, on travaille pour soi avant tout.
Mais voyez, Emmanuel, d'abord, on entend une grande tolérance chez vous et ça aussi, c'est agréable à entendre. Mais je crois aussi que cette épreuve, parce que c'est une épreuve, hein, surtout quand on a une sorte d'illusion de la fidélité pour la vie, c'est aussi une épreuve qui, quand on arrive à la dépasser, renforce notre estime de soi et notre amour de soi, curieusement, parce qu'on se rend compte que quand on sait pardonner, même si c'est pas pour ça qu'on oublie, hein. Quand on sait pardonner, eh bien, on a une grande estime de soi qui nous envahit. Et ça, dans votre voix, on l'entend, et je tiens à le souligner parce que très souvent, on n'arrive pas à pardonner parce que c'est pas facile, hein. Mais vous avez su vous en donner les moyens aussi, visiblement, hein.
Ouais, mais ben, on était deux dans cette histoire-là aussi. Si je n'avais pas senti que mon conjoint travaillait justement pour essayer de changer la donne et puis de repartir sur de bonnes bases, toute seule, je n'y serais pas forcément arrivée. Je dis pas qu'il serait pas arrivé parce que j'ai confiance en ma capacité d'avancer et j'ai pris conscience aussi au travers de ça d'un certain nombre de choses auxquelles je ne croyais pas forcément quant à mon pouvoir de séduction, quant au fait de... Parce que je regardais plus tout ça. J'avais, en fait, pour moi, le monde était tout autour de mon conjoint. C'était la perle rare.
Vous étiez trop sûr de vous et quelque part trop sûr de lui. Ouais, ouais.
Ah ouais, complètement. Ouais. Et donc, du coup, il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pu appréhender, en fait, parce que justement,
Est-ce que vous pourriez dire, oui, la confiance totale. Est-ce que vous pourriez dire que finalement, quand on est à un moment donné trompé, hein, j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas d'autre là tout de suite, on avait quand même en amont quelques indices qui laissaient à penser que ça pouvait arriver. Est-ce que vous diriez ça?
Oui, tout à fait. Mais on les voit pas. En fait, quand on est dans la routine du quotidien, parfois, et qu'on se sent bien, parce que moi, je me sentais bien.
Hein, oui, mais lui aussi, sûrement.
Hein. Cette histoire-là, non, en fait, il ne se sentait pas bien, mais ça a été son moyen de communication, d'une certaine façon. Et au lieu de venir vers moi et de me parler de la problématique, eh bien, il a décidé, d'une certaine façon, de me protéger et d'aller exposer sa souffrance ailleurs. Donc... Ce qui n'était pas forcément la bonne solution. Mais effectivement, maintenant, quand je retrace ce parcours d'années, il y a des choses, je me dis, mais Laure, c'était là, sous ton nez. Et tu ne le voyais pas.
Emmanuel, il y a juste une question que je voudrais poser à Lucie Vincent, parce que c'est quelque chose que j'entends et je voulais avoir sa vision de biologiste. J'entends souvent, Lucie Vincent, quand des gens se rencontrent très très jeunes et souvent même d'ailleurs vierges, hein, comme c'était votre cas, Emmanuel, c'est souvent plus facile de faire durer l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, pourquoi?
Ben, je pense que ça vient du fait que, en effet, pour se reproduire, mûre physiologiquement dès l'âge de 14-15 ans. Alors, quand on se rencontre très jeune, tous les processus physiologiques pour la création du lien sont optimales. Mmh. C'est le moment où vraiment ça se forge.
Il y a un ancrage très fort. Ouais,
ouais. Et en plus, c'est un ancrage qui se fait avec la famille de l'autre. Parce qu'on est jeune, souvent, on les voit beaucoup et c'est comme si on faisait partie de la famille de l'autre. Et tout ça, ça crée des liens extrêmement forts dans le cerveau. Et je pense que ce sont des choses qui durent, même si le couple ne dure pas dans l'absolu, ce lien reste malgré tout.
Oui, je pourrais même pousser ça plus loin en disant que comme on est dans la jeunesse et dans la première expérience, ben on expérimente en fait. Mmh. Donc on est plus malléable.
Mmh. Mmh.
Alors que quand on a un parcours de vie, il y a des choses qu'on a appréciées, d'autres que l'on n'a pas aimées, et donc du coup on réajuste le tir. Donc on est un petit peu plus exigeant.
Comme vous êtes malléable, évidemment, l'autre peut s'inscrire très facilement en vous, si je puis dire. Oui, oui.
Exactement.
Oui. Oui, et comme c'est la première fois, tout est éblouissant. C'est une découverte absolue, donc les effets sont multipliés.
C'est ça, de l'adrénaline à 200%.
Voilà.
Oui, mais ça fait aussi une fondation de votre couple qui restera quoi qu'il arrive, et c'est une force aussi qui vous a enraciné. Emmanuel, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est un très beau témoignage et qui donne beaucoup d'espoir à tous ceux qui nous écoutent parce que vous avez dit tellement de choses. Merci beaucoup. On fait une petite pause. J'ai choisi un love conseil qui s'appelle Savoir aimer, et vous pourrez réagir évidemment, Lucie Vincent. On va tester aussi un petit jouet avec Leïla, et puis vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300.
Sud Radio Tarbes.
102.
Sud Radio.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Pero sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo. Viste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente. Esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Tus billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor. No, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Savoir aimer, voilà mon love conseil. Et Lucie Vincent, vous réagissez évidemment à chaque moment, que vous soyez d'accord ou pas. Hein, okay. Voilà. Donc aimer, beaucoup disent, c'est savoir donner et savoir recevoir.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Donc, a priori, il faut donc lâcher toute forme de contrôle sur son partenaire. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce que la peur de s'abandonner à la relation, c'est déjà un handicap majeur, comme la peur d'être jugé. Tout ça fait qu'on n'est pas toujours dans le savoir donner et recevoir. On est souvent dans le besoin de donner pour se faire aimer ou pour croire que parce qu'on donne beaucoup, on va nous aimer, etc.
Oui, c'est beaucoup une question de confiance qui entre en jeu, là.
Exactement. Et pour ça, il faut avoir une bonne estime de soi pour savoir aimer. Il faut avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi. Et à partir de ce moment-là, on va savoir aimer. Donc si on est dans des relations d'amour qui sont chaotiques, qui sont toxiques, peut-être qu'il est important de faire un travail pour améliorer son estime et sa confiance en soi.
Son estime de soi, oui. Pour pouvoir aborder une relation à égalité avec quelqu'un, c'est obligatoire. Sinon, il va y avoir un déséquilibre qui se met en place.
Il faut aussi être capable de se dévoiler, d'exprimer ses attentes sans l'exiger. Savoir s'ouvrir à l'autre, en quelque sorte créer une intimité psychique également, pas uniquement corporelle. Hein, et donc, à ce moment-là, il y aura des échanges sur l'ordre de la communication, mais pas uniquement corporelle. Et ça n'a rien à voir avec la passion amoureuse, hein,
Mais c'est par ce biais-là qu'on entame la création du lien amitié de longue durée, plus solide, qu'on maintient justement par ces genres de conversations régulières.
C'est une définition que j'ai retrouvée aussi, que je trouve assez juste. Aimer son partenaire, c'est composer avec ce qu'il est et croire en lui. C'est assez joli.
C'est très joli, oui. Mmh. Oui. Oui, et pas essayer de le changer, mais... Je remarque.
N'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé aussi, parce que j'ai travaillé pour vous sur ce Love Conseil, Lucie Vincent, notre capacité à aimer, elle est variable évidemment suivant les individus, tout le monde s'en douterait, et j'ai trouvé 4 paramètres. Alors évidemment, il y a les messages qu'on a reçus durant l'enfance, si on a été plus ou moins sécure, etc. Bon, tout ça, c'est pas la peine de revenir, on en parle souvent. Et puis il y a aussi des injonctions qui sont soit libératrices, soit inhibitrices. Par exemple, si on a une mère qui nous a dit « tous les hommes sont des salauds », c'est pas facile d'en choisir un bon, on va plutôt en choisir un mauvais.
Absolument.
Pour obéir à maman.
Absolument.
Troisième paramètre, il y a des missions de réparation aussi qui sont parfois très inconscientes. Par exemple, ce désir de sauver l'autre qui va nous faire pas rentrer dans une relation très, très épanouissante.
C'est un exemple de déséquilibre. Oui.
Et alors ça peut être le désir de sauver l'autre, mais quand on est dans le syndrome du sauveur, ça peut aussi être le désir d'être dans la puissance de la relation. C'est comme ça, on garde le pouvoir.
Hein. Oui.
C'est pas toujours aussi
généreux.
Généreux, merci.
Non.
et par exemple, je vais donner un exemple très concret. On peut devenir, on veut devenir psychiatre pour soigner une mère qui était dépressive. De même, on peut vouloir venger sa mère des hommes parce que son mari l'a beaucoup fait souffrir. Et du coup, on va mal se conduire avec son partenaire. Enfin bref, on voit qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en jeu dans ce troisième paramètre. Et dernier paramètre, c'est aussi nos rencontres tout au long du parcours qui fait qu'on va aimer différemment entre le moment où on sort de la puberté et la suite.
Ah mais absolument, et ça c'est très important, et d'où l'importance de toutes ces conversations qu'on doit avoir en permanence, échanger, partager, je pense.
Alors quand on fait, on voit quand on a terminé ce Love Conseil, à quel point c'est pas si simple l'amour. Hein.
Mais non, vous l'avez dit en début, il n'y a pas de solution miracle et c'est un travail constant. Et si on pense que ce n'est pas du travail, c'est juste qu'on a trouvé son rythme de travail et c'est devenu une routine, mais on fait le nécessaire.
Hein. Ou qu'on est talentueux dans l'amour, donc il n'y a pas de travail, il y a du talent.
Mais... C'était qui nous disait que le fait de faire l'amour, d'avoir envie de faire l'amour avec son partenaire, quand même que ça permet de surmonter beaucoup de difficultés dans le couple. Parce que quand cette envie, ce désir sexuel existe, c'est vrai que ça c'est un don magique.
Moi j'irais jusqu'à dire que aimer faire l'amour, ça permet d'avoir plus... confiance et une meilleure estime de soi, déjà.
Hein? Mais déjà, oui.
Bon, oui. Donc déjà, on peut se masturber. Hein? Bon, on devait tester un jouet. Malheureusement, Leïla a eu un petit accident. On lui souhaite un prompt rétablissement et on espère la retrouver bientôt avec nous sur Sud Radio. Fred, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et Lucie.
Bonjour.
Mais tout d'abord, c'est la première fois que j'ose prendre la parole. J'ai dit bien j'ose. J'écoute fidèlement votre émission depuis bien longtemps. Et je dirais que c'est quelque chose que je partage avec mon épouse aussi, de temps en temps.
Et, quelle bonne idée.
Notre expérience, en fait.
Et donc, c'est Emmanuel, votre épouse.
Alors, presque. Ça pourrait l'être parce qu'on est sur des parcours très, très similaires. Nous sommes un très, très vieux couple.
Ouais.
Enfin, il paraît, quoi. Nous, on se sent jeunes, mais il paraît. Que
mais l'amour maintient jeune, Fred.
Ah ben j'espère bien, oui. Donc, oui, ça fait 44 ans que nous sommes mariés. On se connaît depuis plus de, 50 ans au moins, à travers l'école, à travers le collège, voilà, c'est un amour de jeunesse, qui a mis longtemps à mûrir, à se concrétiser. C'est absolument pas de coup de foudre comme ça dans lequel on tombe, c'est plutôt, je dirais, une volonté obstinée de conquérir quelqu'un qui a fait que elle est devenue mon épouse. Et voilà, donc nous avons également eu des enfants très tôt. En fait, nous n'avons jamais eu de vie de couple seul. On a toujours vécu tout de suite avec des enfants. Mmh. Avec un enfant d'abord, et ensuite un deuxième, et ensuite un troisième. Et donc, on a passé une première partie de notre vie à nous consacrer d'abord à nos enfants. Et puis ensuite, les enfants grandissant, vers l'âge de 35 ans, on s'est dit, il faut quand même aller explorer un peu tout le reste. Alors, on a eu une vie amoureuse très intense, hein, ça, il va de soi. Mais quand même avec une priorité d'abord construite autour des enfants. Et ensuite, petit à petit...
Si je comprends bien, c'est quand vous avez 35 ans que les enfants déjà sont grands, pour que vous puissiez profiter enfin de votre vie. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez rare aujourd'hui puisqu'on a plutôt des enfants tard. Et pourtant, c'est presque dommage parce que 35 ans, on est encore très très jeune et on peut vraiment profiter peut-être encore mieux de sa vie, quoi.
Oui, alors j'ai pas d'avis sur ce qui est bien ou pas bien. C'était comme ça. Et finalement, on a essayé de faire avec. Et on a beaucoup parlé, bien sûr, y compris sur nos envies, y compris sur nos plaisirs, y compris les périodes où nous étions des parents assidus. Ça nous a jamais empêché de s'occuper de nous en tant que couple, hein, malgré tout. Et justement, le fait de ne pas avoir été seul à un moment donné, il a fallu quand même toujours entretenir cette flamme, y compris avec les enfants. Et donc, on s'en est arrangé, accommodé. Mais finalement, c'était une bonne chose, je trouve. Une bonne chose. Disons, pour nous, c'était bien parce que ça nous a permis de faire évoluer notre couple.
Donc là, on entend beaucoup de communication entre vous.
Oui.
Encore.
Oui, énormément à ce stade-là. Parce que ensuite, le risque, c'était vers 35 ans, se dire, finalement, comment est-ce qu'on va vivre la suite, quoi. Parce que, je ne sais pas que les enfants soient une finalité, mais c'est quand même une grande étape. Et à ce moment-là, se sont posées des questions sur la fidélité, sur d'autres expériences, sur comment raviver la flamme, sur comment avoir des expériences qu'on n'a jamais eues, parce que tous les deux, nous avons été nos premiers amours. Donc, voilà.
Et vous en avez parlé ?
Et on en a parlé, et ça a mis longtemps à mûrir, et on a pris un chemin qui était le nôtre, qu'on a choisi ensemble, qui était celui de rester très fidèle dans nos têtes, mais pas forcément toujours dans la réalité. C'est-à-dire que nous autorisions ensemble, souvent, c'est une forme de libertinage, hein, ni plus ni moins, à aller explorer d'autres choses. Et ça nous a amené effectivement à vivre très intensément, mais avec le plaisir pour moi qui était toujours celui de ma femme. En fait, voilà, j'avais en réalité, à travers ça, bien souvent, ce que nous cherchions, c'était à nous créer des bons moments qui étaient ensuite des moments dans notre intimité qui nous permettaient de raviver la flamme, y compris entre nous. C'est des souvenirs, c'est des sensations qu'on utilisait ensuite entre nous, en réalité.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le désir d'autres hommes pour votre femme, ça vous la rend encore plus désirable à vos yeux?
À 100%, oui, évidemment.
Oui, c'est ça, oui. Mais ça, c'est un phénomène dont on parle beaucoup et qui est en train d'être un petit peu remis à la mode par les polyamoureux, les groupes de personnes.
Mais c'est encore autre chose, hein, le polyamour.
Oui, c'est autre chose. On n'a jamais été dans cette situation-là, en fait, de polyamour.
Non, je parle juste de ce phénomène d'être excité par le regard d'un autre sur votre amoureux. Oui, ce n'est pas du tout la même chose, je suis d'accord.
Oui, et surtout, c'est aussi une façon de donner confiance en une femme qui, bien ayant eu 3 enfants, se sent désirable, belle, et donc prend une confiance, ou construit une confiance qu'elle ne soupçonnait presque pas, je dirais. Mmh. Il y a eu un épanouissement assez formidable.
Mais vous voyez ce que je trouve vraiment intéressant dans votre témoignage, Fred, vous savez que j'aime bien toujours faire le lien entre le début du témoignage et puis la suite, c'est qu'au fond, vous avez choisi cet objet d'amour. Quand je dis objet, hein, c'est au sens psychanalytique du terme, hein, c'est pas du tout pour traiter votre femme d'objet. Hein. Vous l'avez choisi avant même qu'elle se rende compte que vous l'aviez choisi. Vous avez tout fait pour l'obtenir, et ensuite vous l'avez façonné, vous l'avez mis sur un piédestal, vous l'avez aidé à devenir désirable et désirante. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de et au fond, même si c'est a priori quand on vous écoute elle qui serait la reine du couple, en fait c'est vous quand même qui tirez les ficelles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fonctionne très très bien parce que chacun y a trouvé son compte et c'est pour ça que ça marche.
Effectivement, c'est la reine et je dirais tout tourne autour de ça. Oui, effectivement. Alors, on peut parfois dire c'est une forme de manipulation. On peut dire.
Non. À partir du moment où chacun.
Les chagrins diront ça, si vous voulez.
Oui, ça c'est les jaloux et les envieux. Mais à partir du moment où chacun s'y retrouve et chacun est heureux, je vois pas pourquoi on parlerait de manipulation. C'est-à-dire que chacun est heureux dans ce rôle-là. Je sais pas ce que vous en pensez, Lucie Vincent, de ce que je viens de dire.
Non, à partir du moment où tous les deux sont heureux et sur deux, c'est sûr que les rôles doivent être différents. On ne peut pas tous les deux jouer le même rôle dans cette situation. Et quand la première fois, est-ce que vous avez eu des doutes? Est-ce que vous avez hésité à sauter le pas?
Oui, évidemment, ça fait l'objet de grandes discussions, ça fait l'objet de vérifier si ça pouvait correspondre à des envies pour elle aussi. Ça c'est un très 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 long cheminement, et c'est resté tout au long ensuite des interrogations à chaque fois, avec des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, et quelque part surtout le grand désir de se retrouver soi-même. Et aujourd'hui, nous passons encore du temps à, entre guillemets, nous séduire et essayer de nous plaire. C'est aussi quelque chose que je trouve bien. Il suffit de bien choisir son lieu de destination de vacances, et c'est assez aisé à faire, dans le sud de la France notamment. Voilà. Et au-delà, je dirais, du côté parfois très décriée. Je parle du Cap d'Agde, par exemple. Pour nous, c'est aussi un endroit dans lequel on peut se faire plaisir en couple. On peut se faire plaisir à se montrer sous des facettes qu'il est très compliqué de montrer autrement. Bah,
vous savez, je crois que ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est un lieu où il y a une liberté comme nulle part ailleurs. Et il faut y avoir été pour le comprendre, ça. Donc je pense que souvent les personnes qui jugent le Cap d'Agde, c'est souvent des personnes qui n'y ont pas été, il me semble.
Oui, c'est clairement le cas.
Après, ça peut choquer certaines personnes qui seraient pas du tout prêtes à ça, hein, bien sûr, mais c'est un lieu où il y a une liberté, c'est tout.
C'est pas lieu, je dirais, sacré où tout se passe bien. C'est un lieu où on peut effectivement avoir un espace de liberté à chacun d'y trouver, je dirais, sa mesure, et c'est surtout, quand on est en couple, savoir mesurer et pondérer pour que les deux y trouvent un grand plaisir. Et notamment pour une femme, je trouve que c'est souvent un endroit dans lequel elles peuvent se mettre en valeur et jouer un jeu de séduction. Je dis bien un jeu, parce que la vraie vie, c'est pas forcément toujours ça, et c'est pas toujours possible. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire durer. Maintenant, j'ai une deuxième partie de ce que je voudrais également évoquer. C'est plus un doute. Et que, bon, on est passé par un accident de la vie, on a perdu un enfant, on a essayé de surmonter tout ça, et ensuite vient un âge aussi où je trouve qu'il y a une espèce de pression sociale qui fait que, ben non, c'est plus de votre âge, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, voilà, c'est presque, on a presque envie, je dirais pas de se cacher, mais on a l'impression d'être mal jugé, et il peut en résulter une forme, notamment pour la femme, de mal-être. Et je voulais évoquer ça parce que c'est quelque chose qui nous interpelle actuellement. Parce que bien évidemment les choses changent avec l'âge, bien évidemment on n'est pas de la même façon.
Alors, écoutez Fred, moi ce que je peux vous dire, c'est que la sexualité des seniors, je viens encore de faire une conférence à Tarbes sur ce sujet ce week-end. C'est quelque chose qui est en train de, c'est un tabou qui est en train de tomber. Donc surtout ne lâchez rien. On a besoin de gens comme vous pour et c'est de toute façon un tabou qui va tomber parce que c'est de plus en, vous êtes d'abord les seniors, on est de plus en plus nombreux, et ensuite la sexualité des seniors est de plus en plus ouverte, les chiffres le montrent bien. Donc ne vous inquiétez pas, il reste encore des petites choses comme ça qui bloquent, mais c'est vraiment, il y a vraiment une c'est vraiment un sujet qui se démocratise. Donc
oui, mais grâce à des personnes comme Fred qui appellent et qui en témoignent et qui disent combien ça lui apporte et combien ça apporte à sa femme. C'est bien d'en parler.
Merci Fred, en tout cas. Merci beaucoup de votre témoignage. On fait une petite pause, on va conclure avec Tom également qui nous appelle.
Sud Radio ailleurs, en DAB+.
Sud Radio.
On a bien inscrit dans ma force à présent. Et demain sera bien plus grand. Et demain sera bien plus grand. Tu seras mon futur à présent. Mon chemin face au vent.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Lucie Vincent est avec nous, on a dit beaucoup de choses sur l'amour et je remercie vraiment tous les auditeurs, beaucoup d'auditeurs différents qui ont témoigné sur des thèmes différents et ça confirme ce que vous dites, hein, chacun fait ce qu'il peut avec son cerveau et son cœur. Hein.
C'est pas très scientifique comme conclusion, chacun fait ce qu'il peut.
Non,
mais c'est vrai, on a eu de très bons témoignages, mais dans l'ensemble, on comprend neurobiologiquement ce qui se passe dans chacun de ces cas qui ont été décrits. Oui. C'est...
En tout cas, ça laisse à penser quand même, Lucie Vincent, que ça fait partie des choses indispensables pour vivre l'amour, au fond. Est-ce que ça a été créé scientifiquement? Enfin, est-ce que la nature a créé ça pour qu'on se reproduise? Sans doute. Mais ça semble quand même
c'est
une
plus
valeur
que ça,
importante.
Parce que l'impulsion sexuelle, c'est ça qui fait qu'on se reproduit, certes, mais l'amour, c'est fait pour que nos enfants survivent dans un milieu difficile. L'amour, c'est fait pour ça. Et ça a une fonction physiologique.
Est-ce qu'on pourrait dire que finalement l'amour, sa fonction, c'est aussi de sécuriser l'espèce humaine?
Absolument, oui, on peut dire ça. Oui.
C'est joli, hein?
Oui, c'est joli. Et un des phénomènes qu'on constate à répétition avec l'amour, c'est que ça fait baisser l'anxiété. Donc, oui.
Donc, on a besoin d'amour en ce moment. Hein,
toujours.
Toujours. Tom, merci de conclure avec nous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous deux. Oui, donc j'ai écouté l'émission dans la voiture comme je le fais régulièrement et c'est vrai que l'émission m'a beaucoup parlé, beaucoup touché parce qu'en réalité je suis en couple depuis 25 ans maintenant, on a des enfants avec ma femme et depuis quelques semaines en réalité je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas comme d'habitude en réalité dans notre quotidien. Et en réalité, en discutant avec ma femme, qui est finalement en conversion professionnelle, en fait, a rencontré une personne, une tierce personne, avec qui, elle me dit, quand je suis avec elle, je me sens bien, j'ai pas de soucis, je pense à rien, je suis bien, avec toi, je suis bien aussi, et aujourd'hui, elle est perdue en fait entre cette relation qui en fait elle sait même pas si de l'autre côté la personne a une réciprocité dans ce sentiment et notre vie de couple. Alors du coup, je lui ai demandé récemment, mais quand vous échangez par SMS, y a rien. Non, je te trompe pas de bisous, rien. Mais c'est vrai que du coup.
D'abord bravo parce que vous avez une bonne intuition et ensuite bravo parce que vous avez su communiquer plutôt que de faire le sourd à votre intuition. Moi je crois que ce qui est important a priori, donc pour l'instant il n'y a pas eu passage à l'acte hein, de la part de votre épouse avec cet homme. Moi je crois que la question à laquelle il faut que vous puissiez avoir la réponse, c'est qu'est-ce qui lui a manqué pour qu'elle ait besoin, pour que son cerveau, puisqu'on est avec Lucie Vincent, pour que son cerveau ait pu être touché par cette personne. Hein, vous êtes d'accord avec ça, Lucie Vincent, finalement?
Absolument.
Ouais, je sais, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, quand elle parle à ses copines de moi, elle dit j'ai le mari idéal, je peux rien espérer mieux. Et c'est ça que le grand interrogation, c'est, et je lui dis qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui fait que. Et
en fait, mais vous êtes parfait. il lui manque de la fantaisie.
Quelque chose.
Il lui manque de la nouveauté, il lui manque une surprise. Il lui manque quelque chose d'inattendu dans votre relation de temps en temps. Peut-être.
Si vous écoutez souvent l'émission, vous savez que je parle souvent de la surprise, de la séduction nouvelle, de parfois même de laisser vaguement un petit doute chez l'autre que vous pourriez un peu vous éloigner, vous voyez. Vous êtes là, trop là, et trop sécurisant. C'est terrible, parce qu'on vient de parler que l'amour, ça a apporté de la sécurité. Mais donc, vous devez l'aimer vraiment, mais vous êtes trop sécurisant. Et elle va chercher un petit peu de fantaisie, un petit peu de vibration, si je puis dire.
D'excitation.
Vous voyez ?
Mais moi, la question qui me vient par rapport à ça, et j'y ai pensé aussi, bien évidemment, c'est que ce phénomène de passion qu'elle a vers l'autre, comment je peux moi basculer en ma faveur, entre guillemets, comment je peux réactiver la flamme après 25 ans. Alors, je vous entends dire la surprise, l'étonnement, mais...
Il faut pas...
La relation, en fait...
Tom, il faut surtout pas maintenant, là, essayer de la surprendre, ça va être... vous allez arriver avec vos gros sabots et ça marchera pas. En revanche, je crois qu'il faut presque lui faire croire que vous êtes en train de vous éloigner. Quelle est l'impression qu'elle peut vous perdre.
D'accord.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lucie Vincent, mais il me semble...
C'est une technique qui peut marcher. Il y a beaucoup d'approches différentes. Et moi, j'ai envie de dire aussi, Brigitte, que c'est vrai qu'elle ressent un frisson, une passion à l'extérieur. Mais n'oubliez pas, de votre côté, vous avez beaucoup d'atouts. Vous avez des enfants, vous avez un ancrage, vous avez une histoire. Et il faut aussi... profiter de ça. Il faut peut-être la ramener en tête-à-tête dans le premier restaurant où vous vous êtes rencontrés ou sur la plage où vous vous êtes parlé. Et il faut sortir votre album de mariage pour le montrer aux enfants un soir devant elle. Essayer de faire revivre dans son cerveau les circuits de souvenirs qui vont lui rappeler que l'excitation, que ça existe avec vous aussi.
Et puis lui montrer aussi que elle joue un jeu dangereux parce que vous aussi vous êtes très
jeune et désirable.
Voilà, et qu'il y a telle personne qui vous a beaucoup essayé de vous séduire, que vous avez résisté par respect pour elle. Enfin, voyez, essayez de jouer aussi la corde de l'éventuelle culpabilité. Enfin, voyez, il faut, mais surtout pas essayer de jouer le grand jeu de la surprise. Vous voyez ce que je veux dire. C'est trop tard. Là, c'est trop tard.
Mais dans le mot surprise, il y a, comme vous évoquez, le fait aussi de ne pas vous comporter comme d'habitude.
Oui, absolument. Tout d'un coup, elles ne comprennent pas non plus pourquoi tout d'un coup vous n'êtes plus tout à fait ce qu'elle attend et qu'elle connaît par cœur de vous.
Oui. Si vous arrivez toujours à la même heure à la maison le soir, mais arrivez un peu plus tard.
D'accord.
Voilà. Mais qu'il se passe quelque chose aussi qui puisse la surprendre. Elle a les raisons, Lucie Vincent. Je ne vous dis pas d'avoir un accident et de. Vous voyez, que quelque part ça la déstabilise parce que finalement là elle a tout, elle vous avoue avec une sorte de sécurité totale et puis elle va un petit peu se laisser vibrer ailleurs, c'est un peu facile, vous voyez, donc il faut que tout d'un coup elle se rende compte que le pilier sur lequel elle peut se reposer avec vous n'est pas finalement il est en train de
il ne va pas supporter n'importe quelle pression.
D'accord.
Et puis, écoutez, vous avez une bonne intuition, hein, puisque vous avez senti.
Et vous réagissez à temps.
Et vous réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Donc, faites-vous confiance aussi.
D'accord.
Oui.
Merci, Tom. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lucie Vincent. Vous avez donné aussi de très, très bons conseils. La prochaine fois que vous venez, puisque vous préparez ce livre, on reviendra sur ce sujet. Je ne le savais pas. Donc, comme quoi, une synchronicité qui est intéressante. Voilà. Mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur l'amour aujourd'hui. Et comme c'est quand même.
Et c'est notre sujet préféré.
Moi, c'est mon sujet préféré. Je suis bien d'accord avec vous. Et je crois qu'on ne s'en laissera jamais, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, Lucie Vincent. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan et puis demain on retrouvera Sandy Boulanger, on va parler du toucher justement.
Sud Radio Mont-de-Marsan
94.1
Sud Radio.
Oui.
When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall out.